Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser et nos amours. Cette semaine, une série de rencontres sur ce thème et peut-être aujourd'hui surtout et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. Et nos amours, ce soir je suis très heureux de discuter avec Grégoire Boullier autour notamment du livre 2 de son immense dossier M paru chez Flammarion. Bonsoir Grégoire Boullier.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être venu discuter ce soir.
Merci à vous.
Je me demandais si vous seriez d'accord déjà avec l'inscription de cette discussion autour de notamment le livre 2 du dossier M dans une émission intitulée « Et vos amours ». Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est une mise en perspective qui vous va?
Ah, très bien, et puis d'autant plus que dans votre introduction, vous citez « Faut-il qu'ils m'en souviennent » et l'histoire que je raconte, l'histoire de M, donc cet amour avec pour cette jeune femme, trouve sa résolution, mais non pas son explication, mais sa résolution dans une figure du passé. Donc ça me va très bien.
Bah, non seulement dans ce récit ou ce livre, il y a un passé qui ressurgit, mais tout le projet est tourné autour du passé, finalement, en tout cas d'une expérience passée. Le dossier M tout entier est tourné au passé, dans un souvenir qui devient un projet, et en même temps qu'une obsession, un petit peu, de revenir sur cette histoire avec M. M qui est l'initiale, mais qui est aussi beaucoup plus, sans doute, dans le titre du livre.
Voilà, qui est l'initiale, mais de l'univers, j'ai envie de dire. Enfin, d'abord, l'histoire était vécue. Moi, je travaille toujours à partir d'expériences vécues. Alors, il ne s'agit pas de parler de moi, il s'agit toujours de partir de moi pour arriver à saisir quelque chose du monde, des êtres, de la société, de l'amour, par exemple. Voilà, donc c'est une histoire qui m'est arrivée, qui a une conclusion assez malheureuse, mais comme une espèce de billard à trois bandes, puisque quelqu'un s'est suicidé, enfin bon, qui n'avait rien à voir avec elle,
mais en même temps... On va revenir quand même sur les épisodes clés.
En fait, c'est une histoire qui a été très importante pour moi. Enfin, comme toute histoire d'amour, c'est un moment existentiel. Je crois que c'est le moment le plus existentiel qu'un individu puisse connaître dans l'existence. Et en fait, cette histoire me dépassait. Et donc, effectivement, c'est un... Je suis dans la remémoration et je revisite toute cette histoire, mais c'est surtout aussi un présent de l'écriture.
Mais alors justement, Grégoire Boullier, je me suis posé la question, et peut-être que vous le dites même certainement quelque part. Donc, toute l'histoire, entre guillemets, commence avec une rencontre en 2004, une histoire, donc, comme on dit, qui dure un certain temps. Et puis, au moment de la séparation, vous programmez aussi sur un certain temps la façon dont elle va vous hanter ensuite, ou vous punir, ou vous dites que c'est une peine. Il y en a pour 10 ans. Et le deuxième volume, donc, se termine justement à la fin de ces 10 ans. Et donc, il y a ce projet. Mais je me demandais, au fond, l'écriture elle-même, elle a commencé après le purgatoire de ces 10 ans, ou bien elle a traversé aussi pendant les 10 ans de mémoire de cette histoire d'amour passé?
Alors, d'abord...
Je sais pas si vous le dites quelque part. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire?
Si, à un moment donné, c'est dit. D'abord, petite précision, je ne l'ai pas programmé.
Ah, l'écriture, pas l'écriture.
Non, les 10 ans.
Les 10 ans.
Les 10 ans, comme je raconte.
Oui, ça vous est venu.
La dernière fois où je vois M, où il est acté que c'est la dernière fois que nous nous verrons et que l'histoire n'aura pas lieu finalement. Je suis dans la rue et à ce moment-là, une voix, c'était mon rapport un peu schizophrène, hein, voilà, mais une voix a tonné dans ma tête 10 ans et m'a condamné à 10 ans et j'ai su que j'en prenais pour 10 ans de malheur, comme on dit, enfin ou de conséquences. Moi, ce qui
Il y a un livre qui s'appelle 100 ans de solitude, où c'est 10 ans de souvenirs.
Voilà, fait 10 ans, mais...
10 ans d'obsession.
Voilà. Ouais, enfin, 10 ans, en tous les cas, à être dans l'écho de cette histoire d'amour et à ne plus pouvoir aimer.
C'est ça que je trouve extraordinaire dans ces 10 ans, Grégoire Boullier, peut-être vous avez trouvé que c'est un peu lourd de le dire comme ça, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est une sorte de... Ça peut paraître très long. Mais au fond, ça vous préserve de l'interminable. Freud dit que le deuil devient pathologique quand il est interminable. Mais en disant 10 ans, ça vous projette aussi, c'est peut-être pas un programme, bien sûr, mais ça vous projette aussi dans à un moment, ça sera fini. Et donc, c'est une peine, mais avec une délivrance à la fin.
Absolument. Alors,
ça sera purgé.
Tout le monde qui a aimé, et si ça s'est mal terminé, sait que il en a pour un certain temps. avec cette histoire avant que un jour le ciel de nouveau soit bleu, que les oiseaux chantent.
Il y a parfois de l'interminable. Il y a aussi des gens.
Il y en a qui
pour qui c'est interminable.
Et donc moi je dis que d'abord j'ai eu, ce n'était pas voulu. Enfin c'est pas conscient, c'est l'inconscient ou je ne sais pas quelle puissance à un moment donné s'est manifestée pour me dire là t'en as pris pour 10 ans.
Moi je trouve que vous avez un inconscient très juste. Enfin très.
En tout cas, je l'écoute assez avec attention. Et alors, mais j'ai une page là-dessus sur d'un côté, c'est génial, mais d'un autre côté, c'est-à-dire que je sais que ce ne sera pas interminable, ce n'est pas à vie, je ne suis pas puni à vie, et on ne sait pas pour quelle est la punition de l'amour, mais il se trouve qu'on est tous punis une fois qu'on a aimé que ça a échoué. Mais d'un autre côté, je sais que j'en ai quand même pour 10 ans plein.
Bah oui, c'est déjà une peine assez longue.
C'est un petit peu comme les autobus maintenant. Vous savez qu'il arrive dans 3 minutes ou dans 10 minutes. Alors que quand vous n'avez pas ce marquage-là, cette façon de chiffrer le temps, en fait, il peut arriver à n'importe quel moment. Donc, quiconque, généralement, est dans un chagrin d'amour, à n'importe quel moment, il peut se réveiller et aujourd'hui, c'est terminé. Et il y a toujours ce moment-là, cet espoir-là. Et là, moi, je sais que pendant 10 ans, ça ne serait pas le cas.
Ça vous a à la fois...
Et ça s'est vérifié.
Oui, alors évidemment, la vie a vérifié cette annonce, mais en même temps, pendant le temps, donc ça vous a à la fois protégé, en un certain sens, et puis en même temps, condamné, au sens où il n'y avait pas... Pendant 10 ans, ayant entendu cet ordre, en quelque sorte, il n'y avait pas de droit de sortir, pas d'issue.
Non, pas d'issue, aucune issue. Mais comme chacun se retrouvant dans la peine, hein, il n'a pas d'issue, il vit son, il mange son malheur.
Mais oui, mais disons que même s'il s'en présentait une, comme vous vous étiez dit ces 10 ans, ça ne pouvait pas être celle-là. Vous aviez une sorte, il y a plein d'issues qui se présentent, et il y a même, comme vous venez de le rappeler, et on va y revenir, au cours de ces 10 ans, des événements extraordinaires qui vous délivrent en partie, mais tant que les 10 ans ne sont pas passés, ce n'est pas possible.
Je ne suis pas libre. On n'est pas libre. En fait, voilà. C'est l'un des mystères de l'amour, hein, qui déclenche en nous des choses assez incommensurables, en fait, qui nous dépassent. Et d'ailleurs, sur cette idée que l'amour, et en tout cas cette histoire m'a dépassé, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le livre est hors norme. C'est-à-dire qu'il n'était pas question que je raconte cette histoire comme n'importe quelle histoire. C'est-à-dire que je voulais... C'est un peu comme un peintre qui... vous pouvez faire un tableau en format raisin et puis vous êtes au-dessus de la toile, mais vous pouvez aussi affronter un tableau qui est beaucoup plus grand que vous et vous êtes forcé d'entrer dans le tableau. Ben, voilà, c'est un peu ce que j'ai fait.
Mais alors, Grégoire Bouillet, moi je pense justement qu'on ne peut pas séparer dans la lecture en tout cas, mais sûrement même dans l'expérience, le contenu de l'expérience et la forme qu'elle prend dans le livre. Donc est-ce que, je reviens à ma question initiale, pendant ces 10 ans, vous avez commencé à l'écriture, à quel moment est-ce que la transformation de ces 10 ans en récit a commencé?
Alors, comme je dis, c'est quasiment à la fin. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais eu une petite conditionnelle et ça a démarré à peu près... dans un an, j'allais sortir, on va dire. Donc là, je sais pas, j'ai eu un aménagement psychique de peine, j'ai envie de dire. Et là, j'ai commencé à écrire. Mais ça a pris quand même 5-6 ans, oui.
Ce qui est très frappant, et je pense que ce lien avec la délivrance proche a joué, c'est que très souvent, on dit, et moi je pense que votre livre est une exploration extraordinaire d'une expérience vitale de l'amour, mais on pourrait croire que, comme pour d'autres épreuves, vous confieriez à la littérature un rôle thérapeutique, quelque chose comme une façon de vous délivrer de la peine. Or là, le verdict étant tombé, l'écriture est délivrée de cette tâche. Elle n'a plus...
Absolument.
Votre écriture, qui est pourtant entièrement tournée vers la douleur en un certain sens, n'a pas le rôle de vous en délivrer.
Alors, moi, j'écris pas comme une thérapeutique, même si le fait d'écrire me fait avancer, personnellement. Mais je me soulage pas sur la page de mes misères. J'essaye d'élucider, de comprendre. Et puis, je pense qu'il y a des histoires qui méritent d'être écrites.
Mais en même temps, il y a une douleur au départ, donc l'écriture se confronte.
Mais il n'y a pas qu'une douleur, il y a une joie.
Oui.
Le livre 1 est d'abord complètement... Oui. On oublie toujours la joie de l'amour. L'événement incroyable d'euphorie qu'il y a à tomber amoureux. Donc le livre 1, d'une certaine façon, il est sous sérotonine, j'ai envie de dire. Et le livre 2, il est plus sous dopamine. Mais au départ, c'est d'abord une histoire de bonheur et de joie, de transfiguration de soi. D'un seul coup, la supercherie sociale, ses propres carcans, tout ça est remué, tout ça est envoyé par-dessus les moulins parce qu'on a rencontré quelqu'un. Et la chance d'avoir rencontré quelqu'un, c'est un événement juste formidable. Et le livre 1 est très dans ce sentiment-là. Il y a même une phrase qui dit « Le bonheur éprouvé à la rencontre de M le malheur qui suivra ne pourra jamais l'effacer. Mmh.
Ce qui est très beau, c'est justement cette dualité que, en fait, c'est vrai que le livre 2 peut-être éclipse un peu, mais quand même cette joie très profonde et cette force de l'expérience est tout le temps présente. Mais c'est vrai que comme on est dans les 10 ans de la peine d'après ce qu'il faut dire la perte, je ne sais pas, on peut avoir l'impression qu'on est dans cet affrontement quand même, ce qui n'est pas vraiment totalement la mélancolie. Mais je dirais justement, comme vous êtes délivré par ailleurs par ce verdict temporel, le livre n'est pas du tout un livre de deuil ou de mélancolie. C'est pas sur la perte finalement.
Pas du tout. C'est sur l'histoire. Et c'est aussi un livre sur la littérature. C'est-à-dire comment la littérature peut raconter l'amour et devenir lui-même un livre d'amour. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'avoir un discours sur l'amour, mais que ce soit aussi dans l'expérience, dans les mots, dans les phrases, dans le mouvement des chapitres, dans les allers-retours, dans la façon un peu explosée que j'ai trouvée pour ce livre, enfin, qui s'est imposé à moi, plus exactement, donner le sentiment, le faire passer directement dans la page.
Alors justement, Grégoire Bouillet, pour moi, c'est vraiment un livre extraordinaire dans sa forme et qui, justement, c'est un livre où la littérature est constamment présente et fait partie de même, je dirais, du contenu de l'amour. Vous venez d'employer le mot discours. J'ai pensé, sûrement comme beaucoup, en vous lisant au livre de Barthes qui s'intitulait « Fragments d'un discours amoureux », qui, à mon avis, est d'une autre époque. En un sens, votre livre pourrait s'intituler ainsi, mais en introduisant, c'est totalement impossible. Mais il y a, vous allez peut-être me dire que vous n'êtes pas d'accord, mais il y a un point qui me frappe, c'est que je voulais vous poser plus précisément. Barthes explique que pour parler de l'amour, il y a plein de façons, mais qu'il faut surtout pas imposer un sens, et que le sens doit venir de la relation entre les parties du discours qui nous anime. Et pour ça, il dit, il y a qu'un seul ordre possible, c'est l'ordre alphabétique. Et les fragments, c'est l'ordre alphabétique, mais arbitraire. L'arbitraire de l'alphabet. Vous, quel est l'ordre des parties? Parce qu'on est saisi par le fait qu'il y a un mouvement, il y a des parties qui sont numérotées, mais il n'y a pas de titre, alors que chacune a sans doute un thème, une harmonique. Comment est-ce que vous avez ordonné votre parcours?
D'abord, c'est extrêmement chronologique. Moi, je pense que la chronologie est indispensable.
C'est narratif, au fond.
C'est narratif. Évidemment, j'ai lu, mais il y a très très longtemps, le fragment d'un discours amoureux. Et je me rappelle avoir été surpris qu'il n'y avait pas d'entrée dans les 80, je sais plus, 80 entrées.
Je sais plus exactement non plus. Hein. Je voulais pas imposer une référence. Non. Hein,
mais il n'y a pas le mot désir.
Il n'y a pas le mot désir.
Il n'y a pas le mot sexe.
Ça commence par le mot absence. Donc, un livre qui peut masquer des absences.
Oui, voilà, certainement. Mais du coup, mon projet, c'était plutôt de justement articuler et les sentiments et le désir et la pulsion sexuelle aussi. Et que tout ça, je pense que la chronologie est indispensable pour comprendre ce qui se passe. On rencontre quelqu'un, il y a un avant l'amour, il y a un pendant l'amour, il y a un après l'amour. Et moi, j'avais plutôt en tête ce que Jean Kelevitch parlant de la mort et articulant le avant, le pendant, on ne peut rien dire de la mort, ni avant, ni pendant, ni après. Et de l'amour, c'est un peu pareil, et en même temps, on peut en faire 2000 pages. Et Jean Kelevitch en fait 500 pages. Absolument. Pour dire qu'il ne peut pas parler de la mort, mais voilà, c'était un peu l'idée qui traînait. Et en même temps, s'affronter en permanence.
Un point de fuite, mais dont la pierre de touche serait malgré tout temporelle. C'est-à-dire qu'au fond, on ne sait pas ce qu'est l'amour, mais malgré tout, il rythme un temps où il est là, et il y a quelque chose d'indubitable, même si on ne sait pas ce que c'est, mais le prendre à travers le temps, ça permet d'en parler, tout simplement.
Oui, parce que je pense que l'amour crée sa propre temporalité. D'abord, il renoue avec des choses du passé, comme si, entre, je sais pas, un événement, un premier amour, par exemple, à 10 ans, et puis l'amour qu'on va avoir à 40 ans, en fait, il n'y avait pas eu les 30 ans entre les deux. Il reprend les choses exactement. Donc, il y a une espèce de temporalité qui est propre à l'amour, qui se fiche complètement des mois, des années, des jours, etc., et qui invente un temps qui est hors du temps social, hors du temps mesurable, et qui est un espace, en fait. Voilà. Et c'est cet espace. Et je pense que la chronologie est vraiment un excellent guide. Enfin, c'est une sorte de Virgile pour aller dans la forêt obscure et s'y retrouver, parce que du coup, on peut dire, il s'est passé ci, ah oui, puis il s'est passé ça. La différence, c'est que moi, j'ai essayé de ne pas produire un discours sûr, j'ai essayé de raconter.
De raconter.
Voilà. Et que
c'est une des différences avec la mort, parce que on peut pas la raconter. Non, et d'ailleurs, dans le livre de Jean Kelevitch, il parle quand même beaucoup de l'avant, beaucoup de l'instant fatal, mais sur l'après, il dit qu'il a rien à dire, encore moins, disons, que sur les deux. Alors que là, l'après, L'après, il se passe plein de choses. Pendant les 10 ans que vous vous êtes donné, que votre inconscient vous a imposé ou permis, je ne sais pas comment il faut dire, là, justement, il se passe encore plein de choses. Et l'approfondissement de ce livre 2, de ces 10 ans, est une série d'expériences qui sont encore dans l'amour, mais dans l'après-l'amour. L'amour, après l'amour, c'est encore l'amour.
C'est comme les musiciens qui disent que le silence après la musique fait encore partie de la musique. Donc là, c'était... Et puis c'est vrai, c'est-à-dire que...
Vous étiez encore amoureux, de toute façon, tout simplement. Est-ce que vous diriez ça, en fait?
Eh ben non, je crois pas. Je crois que l'une des découvertes, enfin, en tout cas, mon sentiment, c'est que l'autre, la personne que l'on aime... Vous savez, dans les romans, ça commence par... le narrateur rencontre quelqu'un, il s'aime... Et puis ça se termine.
La première fois qu'il vit Bérénice, il la trouva, je ne sais plus comment.
Il pâlit à sa vue, il revit et tout ça. Donc il y a le moment de la rencontre, l'histoire et la fin de l'histoire. Ouais. Et le livre 2 dont vous me parlez, en fait il est venu aussi...
C'est son titre, hein, le dossier M, livre 2.
Ouais, il est vraiment venu aussi en réaction à... Et je cite par exemple Flaubert, qui est à la fin de l'éducation sentimentale, cette grande histoire d'amour de Frédéric Moreau... Ouais. Pour Madame Arnoux, et puis ils se revoient une dernière fois, et puis Flaubert torche en 3 lignes la fin en disant après il connut d'autres amours et la mélancolie des paquebots, point final, basta. Et moi je crois pas du tout que ça se passe comme ça. Je pense que l'histoire d'amour ne se réduit pas du tout à la rencontre physique avec l'autre. Il y a eu un avant qui a fomenté cette rencontre, et il y a un après, il y a des conséquences. Mmh. Et ces conséquences ont duré 10 ans dans ce cas-là, mais qui font que l'histoire se prolonge au-delà des protagonistes.
Mais justement, Grégoire Bouillet, c'est justement ça qui me faisait dire qu'il y avait encore de l'amour. Peut-être que ce mode de relation n'est plus vraiment ce que vous auriez envie de décrire sous le nom d'amour, mais le fait d'être pris dans ces 10 ans, de penser tout le temps à M, malgré tout, c'est encore quelque chose qu'on aurait envie d'appeler l'expérience de l'amour. C'est-à-dire qu'elle transfigure encore le monde, c'est encore avec elle que vous pensez tout.
C'est avec l'histoire de M.
Ah,
c'est la différence, c'est pas avec M. La figure de M disparaît à un moment donné, enfin, l'histoire avec elle n'a pas eu lieu, mais l'histoire qu'elle a fait naître, elle s'est prolongée au-delà d'elle et au-delà de moi. Et c'était ça que je voulais, dont je voulais rendre compte absolument. C'est l'histoire se prolonge au-delà des protagonistes. Je peux pas mieux dire.
Mais est-ce que l'amour est quelque chose au-delà de son histoire? Enfin, si l'histoire se prolonge, c'est que l'amour se prolonge lui-même. Des protagonistes de l'amour.
Bien sûr. Mais la question, c'est savoir l'amour de qui, de quoi, pour qui, pourquoi. Et je suis juste en train de dire que ce n'est pas l'amour pour la personne seulement. C'est l'histoire, enfin, l'amour crée une histoire. Et cette histoire se prolonge au-delà de ses figurants, dont moi et par exemple les personnages de M.
Alors, Grégoire Bouillet.
Et heureusement d'ailleurs.
Que veut dire justement, on reviendra sur quelques épisodes de ces 10 ans, de ces 10 ans d'histoire après l'amour. Mais que veut dire se prolonger en l'occurrence? Moi, il y a une chose qui me frappe énormément, c'est que ça aimante, pour ainsi dire, le monde et que dans chaque partie, c'est chronologique, entendu, c'est narratif, mais comment vous découpez-vous dans ce récit des parties? Dans chaque partie, il y a quelque chose comme un thème, je disais, une harmonique, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une expérience qui va surgir dans cette temporalité. Qu'est-ce qui fait l'unité de chacune de vos parties, un petit peu musicalement ou narrativement, mais quand même, chaque partie a son unité.
Alors, le mot musical est très juste, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre que j'ai prémédité. Je suis parti juste avec une simple idée. Un homme est mort, je suis en partie responsable de sa mort.
Ça, c'est
il y a une histoire qui a été une histoire d'amour qui a été très importante pour moi. Que s'est-il passé? Je me suis lancé là-dedans, mais exactement comme des musiciens de jazz se lancent. Ils ont un thème et ils improvisent. Mmh. Et je parle, enfin moi je suis très... amoureux de la musique free jazz.
Mm-hmm. Oui, vous avez sauvé la vie un jour dans le métro.
Oui, absolument.
Il y a un épisode que j'ai en tête tout à coup qui me revient où vous vous faites agresser.
Oui.
Et en fait, en disant à l'agresseur, j'écoutais du free jazz. Enfin, en gros,
je résume. Le mec qui a piqué mon iPod et tout ça, il écoute et il est un peu intéressé.
Le free jazz comme mode de survie.
Oui. Mais surtout comme relation vivante à l'art. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, quand vous improvisez, vous êtes forcé d'être dans l'attention de ce que vous jouez, de chaque note, du temps, du copain qui est en train de jouer, du contrebassiste, du pianiste,
Vous jouez vous-même?
Non, pas du tout. C'est l'un des grands regrets.
Mon père
était batteur de jazz. D'accord. Mais je pense que j'ai pas une trop mauvaise écoute. Et en tous les cas, j'entends cette énergie qui essaye de créer du vivant en art. Mmh. Voilà. Et donc, moi, je me suis lancé. Et évidemment, à un moment donné, j'aurais dû être raisonnable. C'est-à-dire que j'arrive et je vois très bien que j'ai même pas rencontré M, que j'ai déjà 800 pages.
Mais ça ne va surtout pas être raisonnable. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que, et d'ailleurs, on va bientôt écouter le morceau de musique que vous nous avez proposé pour jalonner la conversation, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on dit souvent que les improvisateurs en jazz sont les plus grands compositeurs. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ne sont pas du tout dans... On croit que l'improvisation est totalement informelle, mais au contraire, ils sont obligés de construire quelque chose. Et on retrouve, paraît-il, hein, moi je n'y connais rien, mais on retrouve dans l'improvisation les structures des plus grandes compositions. Par exemple, on retrouve les processus de Jean-Sébastien Bach dans le free jazz. Et donc là, la composition du livre résulte de cette improvisation.
Voilà, parce que toute la mémoire est convoquée dans le présent, dans le moment où on joue. Toute la mémoire musicale d'un musicien, tout ce qu'il a pu entendre, etc. Et comme il est dans le présent de ce qu'il joue, il joue avec tout ce qu'il est. Mmh. Donc avec tout son passé, tout son présent, tout son avenir éventuellement. Et ça se traduit, voilà. Donc c'est
évidemment... Il doit le composer malgré tout, il doit composer.
Eh ben, c'est pas ça, être dans le présent de la musique. Ouais. Voilà. Mais ce n'est pas écrit à l'avance. Donc le livre, c'est fabriqué comme ça et vraiment, il est sorti en fait. J'ai envie de dire, il est sorti et je l'ai laissé sortir en essayant d'être, de pas perdre en route le lecteur et de lui donner les jalons qu'il fallait pour qu'il comprenne. Mais
alors, puisqu'on parle de musique, je suis obligé maintenant de vous proposer ce que Grégoire Bouillet nous a proposé et vous nous direz après, Grégoire Bouillet, pourquoi, comment, et d'ailleurs il y avait plusieurs possibilités dans cette improvisation structurée.
Matière à penser, Frédéric Worms.
Et nos amours, ce soir avec Grégoire Bouillet, autour notamment du livre 2 du dossier M, dont nous étions en train de parler et de rencontrer la question de la musique. Avant d'entendre ce morceau de Frank Zappa que vous nous proposez, Grégoire Bouillet, alors pourquoi Frank Zappa, alors qu'on parlait du free jazz? C'est pas si loin, mais non, ça n'en si est pas quand même.
En fait, vous m'avez demandé de choisir un, deux, trois titres qui illustreraient l'amour. Et je me suis rendu compte que, et vous pouvez me démentir, mais enfin 9 fois sur 10, on va choisir une musique pseudo-romantique, un peu triste. Enfin voilà, le premier mouvement
justement,
qu'on
la
a...
La perte, le manque.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours une musique sur l'échec de l'amour. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, je peux pas encore aller dans un lieu commun. Enfin, donc j'ai cherché. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de musique qui incarne l'amour. Il y a beaucoup de musiques qui font un discours, et un discours plutôt triste et langoureux sur l'amour. Mais voilà, donc mon premier choix, c'était Cecil McBee, un morceau de free jazz, avec un magnifique solo de trompette de Joey Gardner. Parce que quand on est amoureux, on a envie de chanter.
Ouais.
C'est juste qu'on a envie de chanter. Alors après, j'avais un deuxième choix.
Quand on a un chagrin d'amour aussi, mais pas
la
même chanson.
Oui, mais c'est pas la même chanson. Voilà. Et moi, j'avais envie d'insister parce que tout le monde est tellement au courant que l'amour, c'est triste et que les histoires d'amour se terminent mal que... C'est bien de temps en temps de dire que c'est quand même vachement bien de tomber amoureux, quoi. Et que c'est d'abord une joie et un moment existentiel, comme je disais tout à l'heure, formidable, que rien n'égale, en fait, dans la vie d'un individu. Rien n'égale ce sentiment-là. Et alors, Après, il faisait 14 minutes, donc j'ai bien eu conscience que ce serait pas diffusable.
Ou alors, bah, on arrêtait de parler. Voilà, ça fallait renverser l'ordre des choses. Voilà, et on aurait juste parlé.
Moi, ça me va aussi.
Oui, oui, la musique, c'est bien aussi. Ça,
et alors, comme il fallait faire un peu bref, je me suis rappelé de Frank Zappa, qui est, à un moment donné, il y a une page comme ça pour dire, c'est quoi l'amour? En fait, c'est, un jour,
dans votre livre, hein, une page que vous citez.
Ouais, un jour, on boit un vin qui fait découvrir le vin. On avait déjà bu du vin,
mais en fait, on ne savait pas ce que c'était.
Mais en fait, on n'avait jamais bu du vin. Et il y a un jour, un vin qui nous fait découvrir le vin. Un jour, un être nous fait découvrir l'amour. Mmh. Un jour, une musique nous fait découvrir la musique. Et moi, c'est Frank Zappa qui m'a fait découvrir la musique. J'avais écouté les Beatles, tout ça, mais je n'avais rien compris. Pour moi, c'était... voilà. Et d'un seul coup, il y a un saut qualitatif, personnel, qui fait que, voilà. Et il se trouve que, coup de chance, non seulement j'ai aimé la musique de Zappa, mais j'ai aimé aussi l'homme, la figure, la posture éthique, ironique, et Zappa, qui a toujours fait une musique pour jeunes, pour teens, s'est toujours refusé à écrire une chanson d'amour.
Alors, justement, Grégoire Boullier, je voudrais revenir sur ce que
parce
vous
dites. Pardon, je vais terminer. Parce que c'était les enfoncer dans des situations, c'est-à-dire les chansons d'amour font croire à des situations qui ne se produiront jamais. Et en fait, ça crée de la frustration.
Mais je me demandais, en vous écoutant, Grégoire Boullier, s'il n'y avait pas une raison profonde au fait que les chansons qu'on dit d'amour sont tristes. C'est peut-être parce que quand on parle de l'amour, comme d'un objet, c'est qu'on l'a perdu, c'est qu'on est dans le désir, un manque, une nostalgie.
Oui, mais on en parle toujours.
Mais
après,
c'est
toujours le point de vue de la défaite,
bien sûr,
en fait.
Mais l'autre genre de la chanson d'amour, le genre joyeux, comme vous dites, il exprime l'amour, mais sans en parler comme d'un objet. Peut-être qu'il l'exprime en parlant du monde, en parlant de printemps, en parlant de l'autre, en se réjouissant. Mais est-ce qu'il... c'est pas une réflexion sur l'amour quand on est dedans?
Alors, certainement, dans la musique, en même temps, le morceau de Cecil McBee s'intitule « The First Song in the Day ».
Oui, mais c'est pas mon amour.
Ben, c'est la définition de l'amour.
Oui, mais sans le dire. C'est-à-dire que quand on est malheureux, on rumine l'amour. Mais quand on est heureux, on l'exprime sans en avoir à en parler.
Mais à ce moment-là, on pourrait aussi dire, peut-être que les chansons d'amour, de quel amour s'agit-il? C'est-à-dire qu'il y a la même ambiguïté sur, peut-être que ça parle pas du tout d'amour, ça parle juste de tristesse, de chagrin, de perte, de manque. Voilà, mais en fait, on parle toujours pas d'amour.
Ah, oh, quand même, malheureusement, l'amour a aussi ses épreuves. On peut pas les lui ôter.
Oui. Non,
d'ailleurs, dans votre livre.
Attendez, je ne nie pas du tout les épreuves.
Je crois que vous pouvez pas le nier.
Je ne peux pas le nier. Mais je tiens quand même à dire que c'est vraiment.
Bien sûr, il y a les deux.
Le moment de la joie, de l'amour, est toujours mis sous le tapis parce que notre société considère beaucoup plus prestigieux le chagrin et la tristesse. Moi, j'ai toujours envie de dire, ce qui est plus mystérieux, en fait.
Encore plus mystérieux.
C'est le bonheur.
Évidemment. Mais alors, Grégoire Boullier, justement, ce qui me frappe dans votre livre, c'est qu'il y a les deux, mais que ça s'exprime différemment. C'est-à-dire que dans la nostalgie ou dans l'épreuve, on a presque envie de dire qu'on ne pense qu'à l'amour, on se replie un peu. Et puis quand l'amour est là, mais on n'a pas besoin de parler de lui, il nous permet de parler du reste du monde. Et c'est vrai que dans votre livre, il y a aussi cette énergie donnée par l'amour qui vous permet de parler de tout. Et il y a tout notre monde qui passe dans les parties de votre livre. Et là aussi, je reviens sur sa construction. Là, vous avez dit qu'il n'y a pas de préméditation, c'est certain, mais il y a quand même tous les événements de l'époque, toute la dureté de l'époque aussi, toute sa singularité au fond. Et d'ailleurs, je trouve fondamental qu'on puisse... ne puisse même peut-être accéder à notre époque que depuis l'amour, depuis la relation à quelqu'un. Mais là, ça s'ouvre sur le monde. C'est là que il y a cette puissance d'ouverture.
En fait, je crois que la question de fond, c'est pourquoi tombons-nous amoureux de cette personne en particulier? Et en fait, c'est une question qui est très rarement creusée. Pourquoi nous distinguons dans la foultitude un individu qui nous tape dans l'œil, qui remue tout en nous, voilà. Alors il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais il y a le fait que nous quittons l'école, nous partons dans la vie totalement ignorants des choses de l'amour. Nous sommes totalement incultes. Enfin, on nous apprend rien. On nous apprend la loi d'Avogadro-Ampère. On nous apprend les équations du deuxième degré. On nous apprend l'orthographe, mais rien sur les passions, la jalousie, le désir, les sentiments.
Mais vous pensez que ça pourrait être un cours à quelle section de maternelle, du primaire ou du collège?
Moi, je pense en primaire, au moment
la
où on a les premiers émois.
Si on va au cinéma, est-ce qu'on n'apprend pas par la littérature et le cinéma ou même
Alors, qu'est-ce qu'on apprend par la littérature Il y a très peu de livres qui, par exemple, font déborder l'histoire d'amour à ce qu'il y avait avant, les conditions. Par exemple, à quoi tiennent les sentiments? Mais c'est une question qui m'intéresse énormément. Mmh. Et il y a tout un passage où je raconte que on a tous connu cette expérience, on vient de rencontrer quelqu'un, on est très dans un sentiment de grâce et avec le sentiment d'avoir rencontré quelqu'un, et puis on est dans, à l'arrière du taxi, on commence à se rappeler la soirée, et on se dit que, bon, ça fait chier quand même que l'autre habite au bout de la ville. Mmh. Enfin, des choses aussi triviales que ça, qui font partie aussi de l'histoire. Voilà. Et par exemple, si l'autre est chômeur.
Oui.
Bah, d'un seul coup, étrangement, ce sont plus exactement les mêmes sentiments. Il y a une complexité là. Et ça, on ne parle jamais dans les romans. La plupart du temps, on a affaire à des gens qui font partie d'un milieu, on va dire quoi, bourgeois, pour dire simple. Enfin, ils n'ont pas de problème d'argent. Et ils représentent des types d'humanité. Alors que dès que les gens sont dans des classes inférieures, ce sont des cas sociaux. Et moi, je lutte contre ces représentations, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est qu'il y a des romans, etc. Mais en fait, nous avons plein de représentations qui sont qui pour moi sont quand même relativement insatisfaisantes.
Alors, hormis, je pense qu'effectivement, il y a des variations, il y a des approfondissements, et votre livre, en ce sens, est vraiment, je dirais, une sorte de table d'orientation contemporaine sur l'amour. Mais il y a peut-être des invariants. Quand Roméo et Juliette finalement tombent amoureux, c'est l'endroit jusqu'où ça les conduit. Justement, cette unicité, ce miracle de l'unique là qui tout à coup commande tout. On s'y reconnaît tous un peu, malgré tout.
Non, mais sur la pureté du sentiment.
Et la littérature. Non, ce que je veux dire, c'est qu'apprendre. Quand si on lit Roméo et Juliette, ou si on va, un adolescent, mettons, n'importe qui va voir Roméo et Juliette, il apprend quelque chose. Ça...
Ah non, mais il apprend que le sentiment d'amour existe et qu'il est incroyablement fort. Mais moi, ça me rappelle une histoire que j'adore et qui est, que cite Ruben Ogien, vous savez, le philosophe qui est mort récemment. Et c'est un anthropologue qui, au fin 19e, qui se retrouve dans une peuplade, alors je sais plus, j'ai oublié, en disant en Amazonie, et ils sont à la veillée autour du feu, et le chef indien lui dit, alors comment aime-t-on dans ton pays, et tout ça, et l'anthropologue dit, écoutez, en fait, un homme rencontre une femme ou sa belle, et il doit subir tout un tas d'épreuves pour conquérir son cœur, pour se montrer digne d'elle, il doit braver le dragon, etc., etc., et le chef indien reste un instant interloqué, il lui dit, mais il pouvait pas choisir une fille plus facile. Donc on est, tout ça pour dire que, on vit aussi avec des représentations incroyablement formatées et qui sont véhiculées par la culture. Et la culture a sélectionné plutôt ce genre de comportement. L'homme doit conquérir sa belle et se montrer digne d'elle. Ce qui met chacun dans des rôles aussi que l'on peut interroger. Et mon livre essayait de les interroger, d'autant plus qu'il y a un rapport social avec M qui est assez fort.
Bien sûr, puisque c'est quelqu'un qui vient d'une très grande famille anglaise. Donc, vous ne laissez de côté aucun des caractères, finalement, de la personne. Pour vous, il y a tout ce mystère. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire, Grégoire Boullier, que cette question, même cet émerveillement devant pourquoi, ou cette question, ce mystère à la fois de pourquoi lui, pourquoi elle, est-ce que ça, c'est une question éternelle de l'amour, ou est-ce que c'est une question qui a une histoire? On dit souvent que ça définit l'amour romantique à partir d'un certain temps, mais l'amour courtois, ou même chez Dante, Béatrice, puisque vous avez vous-même votre Béatrice. Béatrice, bon, elle a existé probablement, mais malgré tout, elle est dans la perspective de l'amour chrétien, de la grâce. Il y a aussi une dimension historique, culturelle de cette expérience. Bah, votre Béatrice n'est pas celle de Dante. Il y a une Béatrice qui réapparaît dans votre mémoire.
Ah oui, une vraie Béatrice. Enfin,
elle s'appelait vraiment Béatrice.
Elle s'appelait vraiment Béatrice. Là, pour le coup, je ne pouvais pas, changer le nom, parce que... Le livre 2 se termine quand même sur une espèce de révélation, c'est-à-dire que le personnage de M, son véritable nom, c'est MB. Donc, je ne dis pas, je ne cite pas la personne et tout ça.
Vous donnez juste une deuxième initiale.
Voilà, Et il se trouve que, à 10 ans, à 14 ans plutôt, mon premier grand amour, c'est-à-dire celui qui tenait à ma vie, à moi, à mon histoire, à moi, c'est-à-dire la personne que j'ai aimée moi et non pas pour des raisons à cause de ma mère, à cause de, etc.
S'appelait l'initiatrice,
Béatrice M, c'est-à-dire c'est MB à l'envers.
D'accord.
Et là, et donc...
Et une cabalistique de votre livre, une cabalistique amoureuse extraordinaire.
Alors, c'est mon inconscient qui est complètement cabaliste, c'est-à-dire que c'est lui qui a fabriqué, et ce qui est tout à fait remarquable, c'est pour ça que je dis que ça dépasse la personne, c'est que non seulement il y a ce lien des initiales, mais il y a aussi la situation, c'est-à-dire que moi j'ai aimé cette Béatrice au collège, pendant une année, et évidemment, la honte, tout ce que vous voulez, on n'a pas pu exprimer notre amour. Et là, c'est pareil pendant tout le temps qu'a duré l'histoire de M. Nous sommes alors c'est sur le lieu de travail et non pas l'école.
De malentendu ou de non-dit.
Voilà. Et il n'est pas possible d'exprimer ouvertement parce qu'elle est fiancée, parce qu'il y a, il y a le lieu de travail, etc. Et donc les circonstances aussi fomentent l'amour et ce sont elles qui, à un moment donné, se retrouvent à un point précis du temps pour nous faire re-aimer.
Et là, vous pensez, avec l'intensité originale. Vous pensez, Grégoire Boullier, qu'il y a une forme de répétition qui vous révèle quelque chose et qui vous libère plutôt qu'une répétition qui vous enferme dans un schéma, comme il y a des répétitions tragiques où on répète justement le même processus. Là, c'est une répétition libératrice.
Totalement libératrice. C'est, en fait, on a des comètes et elles viennent, elles font leur tour de l'univers, elles reviennent éclairer notre ciel. Et heureusement pour nous, sinon on serait que des numéros qui vivrions uniquement une vie sociale. Et ça vient nous rendre vivants. C'est juste, ça nous rend vivants.
Alors, ça se passe dans le niveau 1 de la partie 31, à la page 538. Et je vais citer parce que là, c'est un moment où il y a un devenir poème de votre écriture qui est dans la prose, hein, qui a toutes les intensités de la prose. Et là, tout à coup, il y a du lyrisme qui revient justement dans la retrouvaille, hein. Béatrice, comme un déclic, un lapsus, comme mon premier amour, le mien. Comme une plaisanterie, une évidence, comme on tire sur un fil, et d'un coup, tout vient d'un coup, tout remonte à la surface, la pelote entière, oh le gros poisson, oh la belle prise, oh la nouvelle pièce à verser au dossier avec une majuscule, comme toutes les premières maîtresses de Balzac se prénommaient Laure, comme sa sœur. Alors, là, je voudrais revenir sur votre écriture. Il y a un moment de surgissement lyrique, quand même poétique, mais dans quelque chose qui s'appelle niveau 1. De partie 31. Alors, cette question des niveaux m'a surpris, mais j'ai l'impression que c'est aussi le que vous disiez de la composition musicale, il faut un cadre, et puis là, on peut laisser surgir l'improvisation lyrique.
D'abord, c'est un livre. C'est important, ce n'est pas un texte que j'ai fait chez moi, et après, je me suis dit, allez, on va en faire un livre.
Il a une forme.
Voilà, il a été pensé comme un livre, il est fait pour être lu par d'autres, et évidemment, il faut l'architecturer. Donc il y a des grandes séquences. Moi j'avais juste un plan, c'est-à-dire que on parlait des musiciens tout à l'heure, ils partent et puis ils savent que à un moment donné, il faudra faire ça à tel
sur
moment
son pied, là,
voilà. Donc moi j'ai un plan, j'ai pas 15 scènes à raconter.
D'accord.
Maintenant, le chemin l'intérieur de ces scènes, la narration de ces scènes et le chemin qui me conduit d'une scène à une autre, bah ça c'est l'improvisation musicale. C'est voilà. Et tout le livre, et il s'agit pas de parler de moi, il s'agit de parler du niveau individuel des choses. Vous avez le vôtre de niveau individuel.
Qu'est-ce que vous entendez par niveau
C'est une façon de.
J'ai pas compris ce mot.
C'est une façon de ne pas dire moi.
D'accord.
C'est se situer à un niveau individuel des choses. C'est vraiment une histoire de niveau. Alors, je peux me situer à un niveau social des choses.
Une sorte de point de vue.
Voilà. Je peux me situer à un niveau social des choses. Je peux me situer à un niveau intellectuel. Là, c'est le niveau purement individuel. Où l'individu, ou le je, en tous les cas, appréhende ce qui lui arrive. Qui, pour moi, n'est pas le moi. Le moi est une... Enfin, bon, bref, je vais pas parler du moi, mais ça m'intéresse pas, le moi. Mm-hmm. Par contre, le niveau que chacun parle à son niveau individuel de ses expériences, ça m'intéressait. Et donc, j'ai trouvé que plutôt que de mettre chapitre 1, etc., c'était beaucoup plus pertinent de parler de niveau, niveau 1, niveau 2, comme si, un petit peu comme Dante, je n'arrêtais pas de m'enfoncer de plus en plus loin dans mes niveaux, dans les couches profondes de l'histoire et de l'individu qui raconte à qui cette histoire est arrivée.
Mais j'ai pas vérifié, Grégoire Boullier, mais chaque partie n'a pas exactement le même nombre de niveaux. Vous n'êtes pas dans une sorte de construction cabalistique à ce point-là.
J'aurais aimé, puis en fait, non, ça aurait été artificiel.
Mais une partie qui a 28 niveaux, par exemple, il y en a, je viens de vérifier.
Oui, mais il y en a une qui doit avoir
2
niveaux.
Et pourquoi 28? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on passe d'un niveau à l'autre? C'est comme un musicien qui passe d'une couche, d'un plan, d'un thème à l'autre?
Non, c'est l'exergue, hein. Je pars d'un point, je vais jusqu'au bout.
Et donc, le point dicte le nombre de niveaux.
Voilà. Et tant que je suis pas allé au bout, ça continue. Donc, il faut épuiser à chaque fois. Il y a plein un certain nombre de références à Pérec, notamment, qui est vraiment une tentative d'épuisement d'une histoire d'amour dans toutes
On sent absolument, parmi les références possibles, sans saturer le livre de références, parce qu'il se lit vraiment au premier niveau, c'est le cas de le dire. Il faut le lire comme ça. Et peut-être aussi, est-ce qu'on a le droit de le feuilleter, parce que moi, j'ai culpabilisé.
Mais moi, je dis à un moment donné, si vous intéressez.
D'aller d'une page à l'autre.
Oui, oui, non, mais je le dis plusieurs fois. Bon, là, si tu t'intéresses pas au rugby.
Oui, vous tutoyez, d'ailleurs, vous tutoyez le lecteur comme
oui,
un vieil ami, un vieux pote.
Oui,
qui est
apparu en cours de route, qui est apparu en cours de route. Enfin, je dirais comme une sorte de nécessité de prendre appui et de converser à un moment donné avec, voilà. Mais, moi, ce qui m'a fasciné à un moment donné, c'était de me poser la question, c'est, qu'avons-nous de si prestigieux, les uns et les autres, pour que quelqu'un fait de la même viande que nous, tombé d'un vagin comme nous, voué pareillement au néant, puisse, du seul fait que nous serions qui nous sommes, nous aimer, tomber amoureux de nous. Mmh. Alors que si on se rencontrait...
C'est très beau de renverser aussi, parce qu'on peut être aimé, non seulement être amant, mais être
oui,
aimé.
Oui, absolument. Alors que... est-ce qu'on s'aimerait si on se rencontrait sachant tout ce qu'on sait sur son compte? Eh ben, évidemment, non. Donc, il faut qu'on y mette un peu beaucoup du sien dans l'autre.
C'est ce que disait Lacan quand il disait aimer autrui comme vous-même. Il disait, bon, ça dépend quand même. Ça dépend comment on s'aime.
Ben, non, justement pas. On s'aime pas.
Peut-être il faut au contraire s'aimer comme parfois autrui nous aime.
Voilà. Et en tous les cas, il faut, c'est un mystère qu'on puisse juste aimer et être aimé. C'est juste parce que c'est juste... il faut y mettre beaucoup du sien, j'ai envie de dire.
Il faut y mettre beaucoup du sien. Votre livre, peut-être, malheureusement, le temps s'écoule. Et il y a aussi cette réflexion sur le temps. Parmi les modèles que vous retrouvez presque intuitivement ou très explicitement, on sent qu'il y a les projets de Pérec avec une contrainte formelle cachée. Il y a aussi, moi j'irais jusqu'à Proust, mais... Ce projet du temps retrouvé, là, vous avez 10 ans. À la fin, ça se termine. Vous dites tout ça pour ça. Tout ça pour ça, c'est un peu comme, c'est une femme qui n'était pas mon genre. C'est un petit peu, finalement, à la fois une désillusion et en même temps plutôt une gratitude. Une gratitude
alors,
infinie.
Plutôt une gratitude.
Alors, moi, je le sens le temps comme une gratitude. C'est pas du tout de la dérision.
Ah, pas du tout de la dérision. C'est merci. C'est de la gratitude. Et j'ai une petite critique, d'ailleurs, à propos de cette phrase.
À propos de Proust.
De Proust, qui a...
Je lui transmettrai.
Oui, s'il vous plaît. Bon, peut-être qu'il a lu, hein. C'est que c'est devenu une espèce de lieu commun, maintenant, de cette façon de dire qu'il aimait quelqu'un qui n'était pas.
Oui.
Et j'ai une phrase texto qui dit que le problème, c'est d'aimer quelqu'un qui est justement fait pour soi.
Absolument.
Voilà. Pour moi, c'est la même.
Mais avant cette phrase, il y avait tout le livre de Proust, quand même.
Oui, mais il y a...
Soit on le réduit à cette phrase, mais...
Oui, oui, bien sûr. Non, mais...
De même, avant, tout ça pour ça...
Je critique pas du tout Proust, en fait. Je critique l'usage que l'on a fait et qui est devenu une espèce de lieu commun où il serait entendu maintenant qu'on aime quelqu'un qui n'est pas fait pour soi. C'est devenu dans le langage et même dans les sentiments, j'ai l'impression. Il est, voilà, ça serait normal. Et j'ai envie de dire, bah non, c'est pas normal. Et parce que ça peut être aussi compliqué d'aimer quelqu'un qui est justement fait pour soi.
Magnifique, Grégoire Bouillet. Merci beaucoup pour cette ouverture.
Merci à vous.
Matière à penser, ce soir, et nos amours, avec Grégoire Bouillet, avec et grâce aussi à Bernard Laniel, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desville, Frédéric Vance. Je vous donne rendez-vous demain pour parler cette fois de la jalousie. À demain.